6h03 minutes, mardi 16 mars. Ciel dégagé ce matin, c'est autour de moins 10 degrés. Ça va se réchauffer. C'est une belle journée. C'est du soleil. Maximum prévu, zéro. Mais c'est sûr là, que ça demeure quand même, si vous œuvrez à l'extérieur, assez froid. La nuit prochaine, ciel dégagé, moins 7. Demain, mercredi, c'est du soleil, 6. Il y aura peut-être un peu de pluie durant la nuit, quelques flocons de neige jeudi matin. Mais vraiment. Rarissime, là, c'est autour de 9. Vendredi, on prévoit du soleil 3. Et la séquence qui s'en vient, là, c'est vraiment des températures printanières agréables. Samedi, c'est du soleil 8. Dimanche, du soleil 12. Et lundi, on prévoit du soleil 14 degrés. Avant de regarder l'ensemble des nouvelles au sujet de la vaccination, de la COVID, des couvre-feux, il y a encore un autre cas de racisme présumé, mais assez clairement identifié, au 6 de Lanaudière, encore une fois, à Joliette, et dans le cas qui nous intéresse, c'est dans un CLSC. Elle s'appelle Jocelyne Ottawa, donc Atikamekw. Elle vient de Manawan et elle a besoin d'avoir des changements de pansement, ce qui fait qu'elle est actuellement dans une résidence pour ses traitements au CLSC. Et elle a mis sur Facebook un statut dans lequel elle raconte ce qu'elle a vécu. Vendredi dernier, c'était sa première visite au CLSC. Il y avait deux infirmières qui l'ont reçue. Là, ça commence par des farces plates. On va t'appeler Joyce, parce que toi, tu t'appelles Jocelyne, puis ça sonne un peu pareil, lit-on dans Le Devoir ce matin. Et évidemment, la femme a compris l'allusion. Elle trouvait ça assez déplacé, merci, compte tenu de ce qui est arrivé à Joyce et Chakwan. Puis là, après ça, ça riait. Tu sais, le rire insignifiant raciste, là, ça trouvait ça drôle. En plus, on lui a demandé de chanter une chanson en Atikamekw. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces deux personnes-là? Et en plus de ça, alors qu'elle cherchait son téléphone intelligent, une des infirmières a dit « C'est moi qui l'ai. » Puis elle a dit ça en riant. « Je voulais voler tes données. » Puis là, finalement, elle a récupéré son téléphone. Elle dit s'être sentie humiliée, que c'était pas acceptable d'être traitée de cette façon-là. Je n'ai rien dit sur les propos qu'elles ont tenus parce que j'avais peur qu'elles décident de plus me donner de soins. J'ai besoin d'être soignée. Et donc, refus de le dire, de porter plainte. Elle l'a exprimé sur Facebook en Atikamekw, puis ça a été repris par la suite par d'autres. Le 6 de Lanaudière a annoncé la suspension sans solde des deux infirmières. Et là, il y a une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Malgré tout le discours qu'on entend, le changement de PDG, nouvelle philosophie, le rapprochement des communautés, on se retrouve encore une fois avec un cas qui n'est pas acceptable. On a tenté de parler avec le CIS qui, bêtement, comme la bureaucratie le fait tout le temps, nous renvoie un communiqué vide de sens et qui ne permet pas de contre-interroger puis de poser des questions. Alors, il y en a qui se contentent de ça, mais la nouvelle PDG par intérim, Mme Barbier, n'est pas, semble-t-il, disponible pour répondre à des questions. C'est juste un autre cas, pardon, de racisme dans son institution. Mais en bon fonctionnaire de grand calibre, elle préfère se pousser. Alors, voilà pour ce qui est de ce nouveau cas d'allégation de racisme. Toujours au même endroit, toujours à Joliette, parce que dans l'eau, pour ce qui se passe, mais c'est clair qu'il y a comme un problème assez important. Maintenant, il semble, il faut être prudent, mais tout indique que le gouvernement va annoncer 17 heures, là, le point de presse et l'heure cruciale où les décisions importantes sont annoncées, que le couvre-feu pourrait passer de 20h à 21h30 dans les zones rouges et disparaître dans des régions comme la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Nord du Québec. Donc, Montréal, le Grand Montréal, serait traité comme la zone orange avec un couvre-feu à 21h30. Puis ailleurs, là où on est en code jaune, ben finalement, ben ce serait l'abolition du couvre-feu. On va se le dire, là, un couvre-feu avec le printemps qui avance, avec donc plus de clarté, avec le changement d'heure de la fin de semaine, ça devenait de plus en plus difficile à être efficace et à gérer. On s'attend aussi à ce que les élèves de secondaire 3, 4 et 5 soient en classe à temps plein dans les zones orange et jaune. Pour ce qui est de Montréal, ce sera une journée encore sur deux. Mais je vous invite, tout ça peut évoluer, changer. Ça s'appelle les fuites un peu calculées du gouvernement là, pour mettre la table. Alors, donc, on s'attend à ce qu'il y ait ces annonces cet après-midi. Il semble que les clients, pas les clients, mais les restaurants, pardon, pourront servir des clients un peu plus longtemps avec le système de livraison. Mais il n'est pas question de rouvrir les salles à manger des restaurants. Pour ce qui est des gyms, c'est prévu pour le 26 mars avec, ça a été annoncé vendredi, là, une série de mesures. Donc, dans la presse, vous retrouvez ces quelques éléments ce matin pour ce qui est des mesures là, de confinement. Entre-temps, la question, c'est le vaccin d'AstraZeneca. Il y a d'abord un autre pays qui s'est ajouté à la liste tantôt. C'est la Suède. Et vous avez déjà des pays européens qui ont placé le vaccin d'AstraZeneca dans le frigo. Là. C'est une suspension, mesure préventive, donc de précaution. L'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Autriche, la Norvège, Thaïlande, Danemark, Islande, Bulgarie, Irlande, Pays-Bas. Vous avez Lettonie, Lituanie, Estonie, Luxembourg et l'Indonésie. Puis rajoutez la Suède. Ça fait beaucoup. Veux pas, là. C'est quand même une liste impressionnante de pays européens. Que disent-ils? Donc, des cas qui, pour eux, amènent un questionnement. Des caillots, embolies, forme de thrombose, et ça mérite, disons, ce devoir de précaution. On fait une pause, on ne dit pas que le vaccin n'est pas bon, on n'a pas de preuve qu'il y a de lien, mais on aime mieux se questionner. Ce qui fait qu'aujourd'hui et demain, entre autres en Europe, vous avez des organismes de réglementation, de conseil, des organismes scientifiques qui doivent statuer. En principe, en France, on devrait avoir des échos dans les prochaines heures. Hier, on a dit on met ça sur pause jusqu'à demain, ou peut-être mercredi. Vous faites le tour ce matin et disons que la communauté internationale, je vais mettre de côté l'Europe, là, mais l'Organisation mondiale de la santé et plusieurs experts disent que ce n'est pas une bonne idée de faire ça. C'est pas une bonne idée parce que ça retarde la vaccination et l'utilisation de l'AstraZeneca, notamment en Grande-Bretagne, des millions de Britanniques l'ont reçu, et il n'y a pas eu de problème. Et il peut y avoir des caillots dans la population normale, peut-être un peu plus dans le cas qui nous intéresse en termes de... quand on fait des comparatifs, là. Mais en gros, il n'y a rien qui démontre que c'est lié au vaccin. Alors, Québec, Ottawa nous disent, à partir des recommandations des experts, on continue à vacciner. D'ailleurs, tout indique que le vaccin va être recommandé pour les Canadiens pour les 65 ans et plus, ce qui est déjà le cas au Québec, là. Mais le mal est fait dans la perception. C'est-à-dire que, sérieusement, on prend un café ensemble ce matin, puis on se dit quoi, là? On se dit l'Europe, pas un pays, pas deux, une liste impressionnante décide d'attendre. Et là, on dit aux gens au Canada, bien, continuez à le recevoir, le vaccin. Je pense que la plupart des gens l'acceptent. Puis là, j'ajoute le vaccin Covishield, qui est un AstraZeneca fait en Inde, à partir des protocole de AstraZeneca. Les Britanniques, c'est sûr, c'est leur vaccin. Fait ce matin, je me promenais dans la presse britannique, puis on rappelle cette obsession de la prudence chez beaucoup de directions de santé publique en Europe. Alors, tout ce qu'on espère, c'est que ça ne viendra pas diminuer l'intérêt pour la vaccination. Je regardais des chiffres aux États-Unis. C'est sûr que arrive cette crise, puis les gens disent « wow, 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 un instant, là ». Par contre, il y en a qui m'ont écrit hier, qui étaient très heureux, ou leurs parents étaient très heureux d'avoir le vaccin. Puis, tu sais, dans le fond, la question me fout un peu de savoir lequel vaccin est utilisé, en autant que j'ai ma dose. Et plus vite les gens seront vaccinés, plus vite on va pouvoir retrouver une certaine normalité. Tu sais, il faut vacciner 50, 60, 70 % de la population. Puis, tu sais, la question que tu te poses, est-ce que moi, je le prendrais? Puis là, il y a bien des gens qui m'écrivent qui ont des problèmes de santé. Puis là, je ne suis pas médecin, je ne commencerai pas à trancher là-dessus, là. Qui me disent, ouais, mais j'ai déjà fait une embolie, est-ce que je peux prendre ce vaccin-là quand même? On va essayer de poser des questions ce matin, là. Mais je pense que l'avantage du vaccin est supérieur à l'inconvénient, là. Est-ce que c'est un problème avec le vaccin? C'est un problème avec un lot du vaccin, ça arrive, qu'il y a certains lots où on doit les retirer parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de la fabrication. Ça se peut. Puis, il y a ce que j'appelle la part du risque dans ça. C'est une situation, disons, où on se retrouve face à un virus. Là, je voyais ce matin le variant britannique, ils en ont découvert un autre, là. Et qu'au début, on se disait, ben oui, il est contagieux, mais il n'est pas plus dangereux. Là, on n'est plus certain, là, s'il n'est pas aussi plus dangereux que les autres. Fait que, qu'est-ce qui est préférable? Te faire vacciner, même avec l'AstraZeneca, plutôt que de dire, ben j'attends, puis de tu sais, dans le fond, comme disait un des spécialistes hier, t'es mieux d'avoir le vaccin que d'avoir la COVID. Ça peut se résumer. Mais c'est sûr que ça, en termes de perception, là, Québec a un job à faire, puis le fédéral a un job à faire pour convaincre les gens d'accepter le vaccin d'AstraZeneca. Comme je vous dis, il y a beaucoup de gens qui le prennent, puis qui disent, moi, je prends le vaccin, mais il y en a d'autres qui sont, disons, un peu plus nerveux. Puis là, on n'est pas dans des anti-vaccins. On regarde, tu dis, pourquoi l'Europe a fait ça, puis pourquoi nous, on fait différemment? Ça revient souvent comme question. Bien, on a un rapport ce matin sur la tragédie qui s'est produite au CHSLD Erin. C'est un rapport qui a été fait par l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec, l'Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires et le Collège des médecins. C'est une catastrophe, c'est une tragédie, des gens qui sont morts dans des conditions inacceptables. Et comme Québec ne veut pas d'enquête publique, il faut y aller par petits bouts d'enquête. Tu comprends? Là, on a décidé de prendre cette enquête, confier ça à des ordres professionnels, très bien. Le VG va enquêter, la commissaire à la santé, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend? En gros, c'est, et vous trouvez ça dans différents médias, La Presse, Matin, De Gazette, Radio-Canada, là, on ne blâme pas le personnel. On blâme les gestionnaires et les propriétaires. Et ce qu'on se rend compte, finalement, que les gestionnaires étaient incompétents, méconnaissance des exploitants concernant les lois et les règlements. On ne connaît pas la réalité. Les gens ne savent pas gérer un centre de soins de longue durée. Des situations qui n'ont pas d'allure ont été tolérées par ces gestionnaires. Puis là, on avait des préposés sans formation. Bref, des incompétents qui devaient encadrer des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Parce qu'il n'y avait pas la formation, qui était lancée dans le feu, puis qui devait s'en occuper. Donc, incompétence des gestionnaires qui se sont défendus en disant être de bonne foi, mais en pratique, la bonne foi, ce n'est pas suffisant. Et l'autre élément le plus important, c'est que, et ça, c'est un élément majeur, les pouvoirs de Québec sont extrêmement limités pour intervenir dans des centres comme ça. Tu peux accompagner, espèce de discours de la bureaucratie encore là, j'accompagne. Mais tu sais, tu n'as pas de prise en charge possible. Et tout le monde dit, ce qui s'est passé là, là, ça aurait pu arriver avant, c'est sans doute arrivé ailleurs, mais ça fait partie de ce qu'on appelle les catastrophes annoncées. Alors, quelle est la réponse? C'est donner plus de pouvoir, notamment pour intervenir auprès des centres qui sont non conventionnés, parce qu'on a des centres publics, on a des centres privés conventionnés, puis des non conventionnés. Je vais vous faire entendre un extrait de François Legault, qui donnait une entrevue à notre collègue Louis Lacroix, il n'y a pas si longtemps, où on a abordé la question, justement, des centres de soins de longue durée. Puis dans les différents points de presse, Legault disait, on va nationaliser, on va les acheter, ils ne sont pas capables. La notion de profit est trop forte et les paramètres ne sont pas assez serrés. Voici ce qu'il disait il y a quelques jours à peine.
Il y avait des gens qui voulaient surtout faire des profits, puis parfois sur le dos des résidents, puis là, ben, il va y avoir des nationalisations.
Au moins que le vocabulaire ait changé, là, nationaliser, ça veut dire acheter et prendre le contrôle. Là, le rapport suggère autre chose. Suggère pas de nationaliser, mais suggère d'encadrer plus sévèrement. Alors, on va y revenir tantôt. Je voudrais dire également aux étudiants universitaires, j'ai reçu des courriels depuis la fin de semaine, là, puis ça s'est accentué hier. Déjà, on termine la session dans quelques semaines. Il faut préparer la prochaine. Et le Devoir nous disait, entre autres, ce matin qu'à Montréal, on risque de se retrouver avec un enseignement hybride. Et comme à chaque fois, j'ai des étudiants puis des parents d'étudiants qui sont ravis parce qu'ils n'haïssent pas ça en ligne, puis il y en a d'autres qui sont bien découragés. Donc, on pourrait donner des cours en présence, en petits groupes. Ça pourrait donc inclure des cours la fin de semaine ou jusqu'à 10 heures le soir la semaine. Donc, parce qu'on veut étirer. avec une présence une semaine sur trois. Ça fait partie des scénarios pour la rentrée d'automne dans les universités. Je ne dis pas que c'est ça qui est décidé, là, mais ça fait partie des options qui sont considérées. L'expérience d'une année à distance, pour beaucoup, là, parce qu'on se comprend qu'à l'université, sauf quand c'est impossible, là, la plupart des cours se sont donnés à distance, les examens se sont déroulés ou vont se dérouler comme ce qui était prévu au calendrier. Il y a des facultés qui prévoit qu'il n'y aura pas assez d'espace puis de profs le matin puis l'après-midi. Donc, il faut étirer la soupe. Alors, va être intéressant à suivre, là. Mais comme je vous dis, il y a beaucoup de profs qui pensent que non, non, il faut revenir en mode présentiel au maximum. Puis, mais là, les plages horaires... Puis, je pense que la pire formule, ça demeure celle où tu as le prof en présentiel avec quelques élèves puis les autres suivent à distance. Le son est pourri dans la plupart des cas. Tu n'entends pas toujours ce que dit le prof, puis encore moins les questions qui sont posées en classe. On comprend que ça fait un an là, qu'on vit avec ça, mais disons que la technologie n'a pas nécessairement avancé rapidement. Bon, dans les autres nouvelles, vous dire également, il y a cette histoire assez bizarre de William Rainville, le jeune king de l'immobilier de l'Estrie. Là. Mais lui, il s'est acheté une maison à Dundee, sur la frontière, à cheval sur la frontière, un shack, là. Une cabane. Et on pense qu'il frayait aussi avec quelqu'un qui a des antécédents criminels. On peut lire ça dans le Journal de Montréal et dans la presse ce matin. Et on le soupçonne peut-être d'être... Il n'y aurait pas eu de conclusion de ses relations d'affaires avec un gars qui s'appelle Sean Bergeron. Un gars qui a déjà été reconnu coupable de fraude, de vol d'identité, de possession d'armes prohibées. De complot et d'outils de cambriolage. Un beau CV. Alors, donc, quand on l'a, et je rappelle, le Rainville, on l'a trouvé avec des armes à feu, qui tentait de passer la frontière. Quantité impressionnante d'armes à feu. Alors, pourquoi il y avait ça? Est-ce que c'était un messager? Est-ce qu'il faisait du blanchiment d'argent? Est-ce qu'il travaillait pour le compte d'une organisation criminelle? Ça reste à voir. On va parler de Lyon. L'annonce a été faite hier pour cette usine de batterie, pour les camions, pour les autobus. Le PDG sera avec nous. Et je vous parlerai également de Glenn Baribeau, faussement accusé d'enlèvement par une adolescente de 13 ans qui avait inventé l'histoire, n'a pas été du tout victime. Et là, il a obtenu une compensation. La jeune femme qui était mineure à l'époque, elle avait 13 ans, en 2017, donc rendue pratiquement à majorité, devra lui payer 10 500. Fait que lui, il n'avait rien à voir là-dedans. Elle a dit « J'ai été victime, son père en a remis, puis finalement, pour découvrir que tout ça avait été inventé. » Il est 6h22. La rue Notre-Dame, Marc.